Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, résumé des épisodes de la semaine précédente. Ulysse a retrouvé l'ombre de sa mère au royaume des morts. Il a appris que son absence l'avait fait mourir de chagrin et que Pénélope l'attendait en repoussant par une ruse le moment de choisir un nouveau mari. En effet, à Ithaque, une troupe de jeunes gens a envahi le palais d'Ulysse. Ils prétendent épouser Pénélope, ils font la fête et ils sèment le désordre. Mentor essaie de soustraire Télémaque à leur mauvaise influence. Pendant ce temps, aux enfers, Ulysse a rencontré des morts illustres, parmi lesquels Agamemnon. Grâce à une potion de Tirésias, il part avec Hermès dans le passé pour découvrir ce qui est arrivé à Agamemnon. Comme il est beau et épais le tapis rouge que Clytemnestre déroule sous les pas de son époux pour l'accueillir. Comme elle donne des signes d'affection et de joie de voir Agamemnon de retour au palais. Le chef victorieux en est flatté. Il se délecte des hurrahs des Mycéniens venus l'attendre. Il se réjouit du festin dont il aperçoit les préparatifs. Un parfum de viande grillée, d'herbes aromatiques et de miel emplissent ses narines. Ulysse en a l'eau à la bouche. Il s'est posté de façon à pouvoir observer l'arrivée du roi sans être vu. Hermès rit sous cape. Quelle comédienne, cette Clytemnestre! Regarde-la jouer la femme ravie du retour de son époux. Même moi, qui suis le dieu des menteurs, je la trouve parfaite. Ulysse est surpris. Il demande « Mais pourquoi doutes-tu de sa sincérité ?» Hermès regarde Ulysse, presque apitoyé. « Malgré tes ruses, tu es un grand naïf, toi. Tu ne vois rien ? Observe les nobles de la cour. Tu aperçois cet homme au crâne dégarni et à la barbe courte ? Il s'appelle Égiste. » Ulysse fait signe que oui. L'homme au crâne chauve est bien plus jeune qu'Agamemnon. Ulysse le dévisage fixement. Il attend qu'Hermès lui donne les éclaircissements nécessaires. Mais au lieu de s'expliquer, le dieu l'entraîne dans les couloirs du palais jusqu'à une porte dérobée. Celle-ci mène à une petite terrasse déserte. De là, la vue plonge sur une autre terrasse plus vaste qui donne directement sur les appartements de la reine Clytemnestre. En bas, la foule des Mycéniens continue à acclamer son roi. Agamemnon est charmé par cet accueil. Il entre dans le palais. Ulysse aperçoit les esclaves troyennes sur les marches du palais, Cassandre en tête. Elle est terrifiée. Elle ne parvient pas à franchir le seuil. Clytemnestre lui jette un regard méprisant. Cassandre espère un peu d'aide de la part d'Agamemnon, mais fidèle à lui-même, il ne s'occupe de personne d'autre que lui. Alors elle renonce à lutter et elle pénètre dans ce palais dont elle sait qu'il sera son tombeau. Aussitôt chez lui, Agamemnon suit sa femme qui le conduit dans ses appartements personnels. De leur poste d'observation, Ulysse et Hermès ne perdent pas une miette de ce qui se passe dans les pièces. Ils entendent le roi renvoyer les gardes et les servantes et donner l'ordre qu'on ne les dérange sous aucun prétexte. Clytemnestre s'approche d'Agamemnon. Elle l'aide gentiment à ôter son armure. Tout près de la fenêtre, on devine la forme d'une grande baignoire dans laquelle de l'eau fume. « Entre dans ce bain, mon mari bien-aimé, » dit la reine. « Cela te reposera des fatigues d'un si long voyage. » Agamemnon se glisse dans l'eau chaude, heureux et béat. « Je reviens, » ajoute-t-elle de son ton toujours aussi joyeux, et elle quitte la pièce. À cet instant, un jeune garçon arrive en courant sur la terrasse où les deux faux marchands se dissimulent. D'immenses yeux occupent tout son visage, comme deux lacs souterrains très profonds. Ses cheveux coupés courts laissent des mèches rebelles se dresser, vestiges de ses boucles de petit enfant, des boucles sombres avec des reflets presque roux. Il crie « Nanae, laisse-moi jouer encore !» Et presque au même moment, une femme surgit derrière lui. Elle s'immobilise, prise de frayeur, en découvrant Ulysse et Hermès. Aussitôt, Hermès met un doigt sur ses lèvres. Le garçon fronce les sourcils, mais il se tait. Et bizarrement, quelque chose empêche la femme de crier. On dirait qu'elle cherche aussi à se cacher, ou tout du moins qu'elle ne souhaite pas être vue sur cette terrasse. Elle profite de l'effet de surprise pour attraper le petit garçon et lui mettre la main sur la bouche. Ulysse remarque qu'elle porte un gros sac sur l'épaule. « Oreste !» chuchote-t-elle. « Je te rappelle qu'une surprise t'attend si tu me suis vite et sans faire de bruit. » Le jeune Oreste a trop envie de découvrir quelle est la surprise que sa nourrice lui promet depuis le matin. Celle-ci supplie les deux hommes du regard. Elle murmure très vite. « Personne n'aime cet enfant ici, pas même sa mère. » J'ai surpris une conversation, un complot se trame, et je sais qu'il court de grands dangers. Hermès fait un signe de connivence pour montrer que toutes ses explications sont inutiles et qu'ils ne la dénonceront pas. Alors elle jette un œil sur les sentinelles postées en bas à l'entrée du palais, puis elle se dirige vers le bord opposé de la terrasse. Le palais est adossé à la muraille qui entoure la ville. De ce côté-là, la terrasse plonge directement sur la muraille. Un petit mur la borde. La nourrice l'enjambe et saisit une échelle de corde qui y est accrochée. Elle fait signe à Oreste de descendre le long de cette échelle et puis elle se glisse à sa suite. L'enfant et sa nourrice se retrouvent rapidement au sol. Là, des chevaux sellés les attendent. Quelques secondes plus tard, l'écho lointain de leurs sabots disparaît dans la nuit. Ulysse regarde les étoiles s'allumer une à une. L'air est pur, on dirait du cristal. Cette nuit d'hiver semble si belle. Pourtant, c'est bien le fils d'Agamemnon et de Clytemnestre que sa nourrice vient, sous ses yeux, de faire fuir aussi étrangement de Mycène. Mais à quel redoutable danger essaye-t-elle de le soustraire ainsi ? Cela fait bien longtemps que le roi Agamemnon n'avait pas profité d'un pareil moment de détente. L'eau chaude dans laquelle il trempe exhale un parfum de musc et de rose. Le chef de guerre n'a pas souvent pensé à sa femme durant toutes ces années, trop occupé à asseoir son pouvoir sur les armées grecques. Mais son accueil charmant le met de très bonne humeur. Lorsque Clytemnestre entre à nouveau dans la chambre, il l'accueille avec un grand sourire et il lui fait signe d'approcher. Elle porte une longue robe bleue. Elle ne se fait pas prier pour venir près de la baignoire. Mais dès qu'elle est à côté de son mari, elle attrape une sorte de filet dont elle l'enveloppe rapidement. Confiant, détendu, Agamemnon se laisse surprendre par ce geste sans réagir. « Mais que fais-tu, ma femme ? » s'étonne-t-il en se retrouvant tout ligoté. Le visage de Clytemnestre a changé en un instant. L'épouse souriante s'est métamorphosée en une femme au regard dur. Elle lui répond « Ce que je fais, chien, je te rends la monnaie de ta pièce. » Agamemnon ne comprend pas. « Mais pourquoi m'insultes-tu et que me reproches-tu ? » Clytemnestre serre le filet qui ligote Agamemnon en nouant les cordelettes autour de lui. « Ah, tu ne sais pas peut-être. Eh bien, voilà un nœud pour mon premier mari, Tantale, que tu as tué pour prendre sa place, sans me demander mon avis. Et voilà un nœud pour mon premier bébé que j'avais eu avec lui et que tu as tué aussi, pour ne pas t'embarrasser. Et puis encore un nœud pour notre fille, Iphigénie, que tu as voulu sacrifier en me mentant honteusement. Ma fille que je sais vivante grâce à l'indulgence de la déesse Artémis, mais que je n'ai plus jamais revue. » Chaque parole prononcée par la reine évoque une douleur terrible. Chaque parole s'accompagne d'un nœud qui serre davantage le filet autour du corps du roi. Agamemnon est livide. Il a beau essayer de bouger bras et jambes, rien n'y fait. Le piège s'est refermé sur lui. La haine de Clytemnestre déborde. Il lui reste un dernier reproche a formulé. Tu ne m'as jamais aimé. Tu es venu me chercher, m'arracher à ce premier foyer où je vivais heureuse. Mais ensuite, aussitôt partie à la guerre, tu m'as trahi. Quand je pense que tu as pris la tête de cette armée pour venger ton frère Ménélas, abandonné par ma sœur Hélène. Comme elle a eu raison, ma sœur, de quitter un mari tout aussi orgueilleux et arrogant que toi. Agamemnon suffoque sous le flot de cette colère. Il jette de tous côtés des coups d'œil, affolé. Personne pour le sortir de là. Il a lui-même donné l'ordre de ne déranger leur retrouvaille sous aucun prétexte. Et toutes ces femmes, ces esclaves troyennes dont tu t'es entichée, Harpinia d'abord, la fille du prêtre d'Apollon, puis Briséis que tu as volée à Achille et enfin Cassandre, cette putain que tu oses amener jusque sous notre toit. Agamemnon ne peut rien répondre. Pas un seul des reproches que sa femme lui adresse n'est injustifié. Il le sait mieux que personne. Pardonne-moi si je t'ai fait souffrir, commence-t-il. Mais Clytemnestre lui coupe la parole. Aucun pardon pour un traître, un menteur, un parjure. Tu ne respectes ni ta femme, ni tes enfants. Es-tu allé saluer le petit Oreste en arrivant? Et Électre, la douce sœur d'Iphigénie, te souviens-tu seulement de son existence? Non, tu ne mérites ni le nom de père, ni celui de mari. Tu n'es qu'une imposture. À ces mots, Clytemnestre s'empare d'une hache et comme une démente, elle se jette sur Agamemnon. Pendant qu'elle commet cet abominable crime, son amant, Égiste, a envoyé chercher partout le petit Oreste. Ils ont décidé de le tuer aussi cette nuit-là. Ainsi, ils seront devenus les héritiers incontestés de la fortune et du trône d'Agamemnon. Mais personne dans le palais n'arrive à mettre la main sur Oreste. On dirait qu'il s'est volatilisé. Après avoir commis sa terrible vengeance, Clytemnestre se dirige vers la chambre où se trouve Cassandre. La jeune femme sait que sa dernière heure est venue. Elle ne dort pas. Elle prie les dieux. Un instant, la résolution de Clytemnestre vacille. Elle la trouve si belle, prosternée, les cheveux répandus sur le sol autour d'elle. Elle se dit que cette femme ne mérite sans doute pas la mort. Qu'Agamemnon a dû lui imposer sa loi, à elle aussi. Mais Cassandre ouvre les yeux et un hurlement sort de ses lèvres. Le mot qu'elle prononce décide la reine à poursuivre sa folie meurtrière, car c'est le nom d'Agamemnon que Cassandre hurle. Elle vient d'avoir une vision du roi qui baigne dans son sang. « Puisque tu l'aimes, va donc le rejoindre !» gronde Clytemnestre, et elle lui plante un poignard dans le cœur. Puis elle regagne sa chambre, comme si rien ne s'était passé. Ulysse et Hermès entendent les cris des serviteurs qui découvrent le cadavre d'Agamemnon baignant dans son sang. Une énorme agitation gagne les couloirs du palais, et la nouvelle se répand dans les rues de Mycène. Tout le monde accourt. Les visages éclairés par des torches sont hagards. Ils veulent tous savoir, mais personne n'est capable de désigner l'assassin. Et personne ne sait où le petit prince a disparu. Seule, une jeune fille sanglote, désespérée. Il y a d'abord eu ma sœur. Maintenant, mon père disparaît, puis mon frère. Tout s'écroule et je n'ai plus de famille. Électre ne croit pas si bien dire. Le jour se lève sur Mycène. Deux cavaliers viennent de quitter discrètement la cité, deux marchands qui, ayant vendu tout leur miel, retournent d'où ils venaient. En as-tu assez vu, Ulysse, maintenant? Tu comprends pourquoi Agamemnon, aux enfers, se plaint amèrement de la trahison des femmes? Ulysse hoche la tête. Le corps du roi est encore chaud. Et l'amant de sa femme, Égiste, se proclame déjà roi à sa place. Ulysse n'a jamais beaucoup aimé le chef des armées grecques, mais la violence de son assassinat l'a bouleversé. Ainsi que le chagrin de la jeune Électre. Tant de sang, tant de haine dans une même famille, mais c'est incompréhensible. Oh, et ce n'est pas fini. Le mépris engendre le mépris, et la haine engendre la haine, soupire Hermès. Cette famille est presque aussi maudite que celle d'Œdipe. Ah non, non, ce n'est pas possible, je n'arrive pas à le croire, répond Ulysse. Hermès arrête son cheval. Tu veux t'en convaincre? Eh bien, ne partons pas tout de suite, reste donc ici avec moi. Mais quelques années plus tard, si tu veux, prends ce sentier, tu vas voir. La sépulture est située au milieu de nulle part, à perte de vue des cailloux, quelques touffes d'herbes folles broutées par de maigres chèvres et un ou deux bosquets d'aubépines battus par les vents. Elle ne ressemble pas à une tombe, c'est juste un trou, recouvert d'une grosse pierre lisse, sans aucune inscription. Ulysse a suivi Hermès sans un mot sur le sentier qu'il lui a indiqué. Ils sont arrivés dans une plaine désertique devant ce monticule. Camouflés, derrière un buisson, ils attendent depuis de longues heures. Hermès joue doucement de la flûte. Le soleil tape fort. Soudain, deux silhouettes apparaissent au détour du chemin. Deux cavaliers, couverts de poussière. Hermès range prestement sa flûte et pose un doigt sur ses lèvres. Ulysse hausse les épaules. Il n'a pas besoin que le dieu lui dise sans cesse ce qu'il doit faire. Les deux hommes mettent pied à terre. Tous deux sont jeunes et ils semblent avoir parcouru une longue route. L'un a noué un bandeau autour de son front pour tenir ses boucles. Des boucles sombres avec des reflets presque roux. Il semble très ému en se rapprochant de la tombe. Il met un genou à terre, puis il se relève et il dit à son compagnon. « Regarde, Pylade, comment ils ont osé enterrer mon père. Bien loin de la ville pour être sûr qu'aucun Mycénien n'ait le courage de venir lui rendre hommage. Pas un nom, pas un mot, tué comme un chien, enterré comme un chien. » Son ami lui pose une main apaisante sur l'épaule avant de lui répondre. 8 ans après, au reste, l'heure de la vengeance a sonné. En entendant ces mots, Ulysse sursaute. Ainsi donc, il a sous les yeux le petit garçon aux yeux profonds qu'il avait vu s'enfuir la nuit du meurtre, le fils de Clytemnestre et d'Agamemnon. Un frisson lui parcourt le dos. Le mot « vengeance » vient encore d'être prononcé. Le sang n'a-t-il donc pas assez coulé? Le jeune homme dégaine brusquement son poignard. Il le tend à son compagnon. Que va-t-il faire? Manifestement, une immense complicité lie les deux jeunes hommes. Une complicité qui se passe de mots. Pylade a déjà compris ce qu'Oreste attend de lui. Il saisit le poignard, attrape une grosse boucle de cheveux de son ami et la tranche net. Des larmes dans les yeux, Oreste dépose ses cheveux sur la tombe de son père. Il est le premier à oser ainsi rendre hommage au roi assassiné. La plaine est écrasée sous un soleil blanc, aveuglant. Seul le vrombissement des insectes et quelques bêlements rompent parfois le silence. Oreste se recueille. Soudain, il se redresse, il se tourne vers le ciel. Hermès! Dieu qui accompagne la paternité, protège ma mission. Je vais rendre les honneurs à mon père. Je suis un fils, je suis son fils. Les devins m'ont renseigné. C'est sa femme, ma propre mère, qui ne mérite même pas ce nom qu'il a tué. C'est alors que des voix de femmes se font entendre. Des chants, ou plutôt des lamentations. Pas de doute, ces voix se rapprochent. Pylade et Oreste prennent aussitôt leurs chevaux par la bride et se dissimulent derrière un bosquet d'arbustes. Hermès sourit. Ouf, ils n'ont pas choisi de se cacher derrière le nôtre. Sinon, nous nous serions retrouvés nez à nez. Et j'aurais dû répondre en direct à la demande. Ulysse lève les yeux au ciel. Décidément, Hermès est un vrai gamin. Une douzaine de femmes apparaissent dans la plaine. Jeunes filles et vieilles, habillées de vêtements déchirés, couvertes de poussière, comme des femmes en deuil. Elles avancent, pieds nus, le visage affligé, pleurant, chantant des paroles à la gloire d'Agamemnon. Comme s'il venait juste de mourir. Mais que signifie cette étrange procession ?